Coucou, c'est Martine. Merci de choisir Radio Plus pour accompagner votre début de semaine. Jean de la Bruyère disait « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté ». Chaque lundi, nous déclinerons ensemble ce mot « temps » à la fois pour le combler, pour le passer agréablement, pour en faire quelque chose d'utile, pour ne pas le perdre, pour quelquefois le rattraper, pour ne pas le trouver long, pour apprécier l'éphémère, pour le rendre fort aussi, pour le rendre moderne mais pas trop, pour en parler au passé, pour le tromper, pour le tuer, pour qu'il ne soit jamais maussade. Bref, chaque lundi de 9h à 10h, je vous dirai comment rester dans l'air du temps en le prenant comme il vient. C'est sur Radio Plus, votre radio. Très bonne journée à chacun d'entre vous. Et oui, c'est un jour sans aujourd'hui. 100 journée mondiale. Incroyable, non? On a donc le droit de voir la vie en rose. Pourquoi pas? Surtout qu'Octobre Rose n'est pas terminé et continue à vouloir mobiliser les femmes en faveur du dépistage du cancer du sein. Allez mesdames, un petit effort car je peux vous certifier qu'on meurt encore du cancer du sein, mais que par contre une détection précoce permet de soigner ce cancer plus facilement et de limiter les séquelles liées à certains traitements. Eh bien voilà pour le rose, mais peut-être préférerez-vous voir aujourd'hui la vie en bleu, même si la semaine bleue est terminée. Alors il suffit pour cela de penser que c'est aujourd'hui l'anniversaire des Schtroumpfs. Et oui, ils ont 59 ans puisqu'ils firent leur première apparition le 3 octobre 1958. Les Schtroumpfs, le monde est merveilleux. Eh ben, pas si merveilleux que cela. Pourtant, et nous verrons cela dans nos différentes rubriques. Et oui, il y a une quinzaine de jours, dans Saltant sur la planète, Bruno Adolfi nous a dressé le triste bilan environnemental de l'usine Metal Europe Nord, en nous rappelant tout l'historique de cette filiale qui exploitait une fonderie à Noyelles-Godault et qui ferma ses portes en mars 2003, laissant derrière elle le site le plus pollué de France. Alors Bruno Adolfi est président de l'association PIGE, dont le fer de lance est d'obtenir l'aide de l'État à la fois pour la reconnaissance des faits, mais aussi dans le domaine pécuniaire, et on verra pourquoi. Bertrand Trinel, président de l'Association des paysages des jardins des hommes, sera à nouveau avec nous pour notre rubrique Jardiner autrement. Et puis nous parlerons à nouveau cette semaine de ce fameux compteur Linky qu'Enedis se veut installer à tout prix dans chaque foyer. Beaucoup d'opposants à la pose de ce compteur se manifestent et se créent ainsi des collectifs. Pierre Rose, militant très actif au sein du collectif Linky 62, nous a lui aussi, lors d'une émission précédente, présenté ce compteur progrès technologique pour Enedis, mais risque sanitaire pour ses détracteurs. Pierre Rose nous a démontré aussi que nous pouvions le refuser et complétera donc tout à l'heure les raisons qui expliqueraient ce refus.
Radio Plus, la radio 100% plaisir.
Et puis dans l'actualité de cette semaine, Emmanuel Macron, qui est en train de réfléchir à une commémoration pour les 50 ans de mai 68. Né en 1977, il est le seul président à ne pas avoir connu mai 68. Le chef de l'État souhaiterait donc sortir des discours maussades sur les événements qui ont participé à moderniser la société française. Et l'Élysée souhaite donner une dimension internationale à 68, car ce fut l'année du printemps de Prague et de sa répression. Ce fut l'année aussi des grandes manifestations aux États-Unis, du massacre à l'université de Mexico et aussi le départ des mouvements étudiants dans toute l'Europe.
Même si le mois de mai ne vous a guère touché, même s'il n'y a pas eu de manif dans votre rue, même si votre voiture n'a pas été incendiée, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Même si vous avez faim de voir qu'il ne se passait rien, quand dans le pays entier les usines s'arrêtaient, même si vous n'avez rien fait pour aider ceux qui luttaient, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Même si vous avez fermé votre porte à notre nez, une nuit que nous avions sur le palier, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné.
Hey, tout le monde ensemble, n'ayez plus peur, tenez-vous la main, il faut quitter cette hypocrisie latente et bourgeoise qui n'a plus aucun sens aujourd'hui. Allez,
même si dans votre ville bien tranquille, sans pavés, sans barricades, sans blessés, sans grenades, même si vous avez gobé ce que disait la télé, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Même si vous croyez maintenant que tout est bien comme avant, parce que vous avez voté l'ordre et la sécurité, même si vous ne voulez pas que bientôt on remette ça, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Chacun de vous est concerné. Chacun de vous est concerné. Chacun de vous est concerné.
On arrive là.
Chacun de vous est concerné.
Et voilà, tout est dit, c'était le groupe Chanson Plus Bifluoré. Alors l'enquête de cette semaine dans l'air du temps, d'après un sondage, les Français déclarent attendre 13 jours en moyenne pour s'embrasser après une première rencontre. 27 jours pour passer à l'acte, comme on dit, et 75 jours pour dire je t'aime. Et l'enquête dit, les Français ont plutôt tendance à prendre leur temps. Alors pour ma part, je trouve que cela va quand même un petit peu vite au contraire. Mais bon, si cette enquête avait eu lieu dans les années 60, je crois quand même que les résultats auraient été différents, n'est-ce pas ?
D'amoureuse, de fille un peu farouche, tu préfères l'audacieuse dont la parole fait mouche. Si tu prenais le temps d'écouter, écouter vraiment ce que raconte ces silences que je ne montre à personne d'autre qu'à toi.
Claire Kaim et ses silences, et se taire n'est pas toujours la bonne méthode. Tout de suite avec nous, Bruno Adolfi, qui compte bien se faire entendre de notre gouvernement.
Sur la planète, oh, le drôle de temps.
Et oui, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent. La solution ? Opter pour la force des passions et mener le combat nécessaire.
Bruno Adolfi, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors la semaine, il y a 15 jours, vous nous avez, Bruno, dressé un bien triste bilan de l'entreprise Metal Europe située à Noyelles-Godault, devenu le site le plus pollué de France. Alors bien sûr, Metal Europe a donné du travail à des centaines d'ouvriers, mais les emplois étaient presque insalubres, on va dire, avec des conditions de sécurité quelquefois sordides. Et en même temps, elle a contaminé des dizaines d'habitants des environs, et l'impact environnemental a été considérable, laissant à sa fermeture non seulement les gens sur la touche sans indemnité, mais aussi toutes ces communes situées aux alentours. Alors, se débrouiller avec la pollution que vous nous avez décrite de cela il y a 15 jours, Bruno. Alors, ce qui a abouti à une initiative associative, la PIGE, dont vous êtes le président, Bruno Adolfi, PIGE, acronyme sur lequel je vous laisse revenir.
Oui, la présentation de cette, comment dirais-je, acronyme est simple, hein. C'est, vous savez, les trois petites lettres qui ont changé la face de la commune des Vins et de Courcelles et de Noyelles. C'était PIG, c'est-à-dire la mise en place du projet d'intérêt général par les préfets successifs. Donc, lorsque nous avons créé l'association en novembre 2014, hein, nous avons souhaité que cet acronyme rappelle ce projet d'intérêt général en intitulant donc cette association pour l'intérêt général des Évinois, donc qui correspond effectivement à la défense essentielle au niveau de l'objet social de l'association. Donc voilà un peu l'explication au niveau de cet acronyme.
Alors, je suppose, Bruno, justement, que les combats ne manquent pas. D'abord, en matière de dépollution, un adage disait « les pollueurs seront les payeurs ». En l'occurrence, ici, ce sont les pollués qui doivent payer.
Eh oui. Hein, il est bien établi, si vous voulez, qu'en cas de pollution des sols, il y a un principe qui de base, hein, qui est applicable au niveau du pollueur-payeur, hein, c'est-à-dire l'entreprise, la personne, hein, qui a laissé à l'abandon un terrain ou des bâtiments industriels dans un état lamentable. Hein, c'est bien cette loi de pollueur-payeur qui devait s'appliquer. Hein, c'est le fait d'assumer la charge financière de la prévention, dans un premier temps, hein, de la réduction et de la lutte contre la pollution aux pollueurs. Aucune de ces charges ont été assumées, hein, et on voit à quelle situation cette usine, lorsque elle a décidé de fermer, s'est retrouvée. Donc une action en justice avait été engagée à la fermeture de l'usine, hein, à l'encontre de Metal Europe. Elle n'aboutira pas, hein, un des actionnaires principaux de Glencore, hein, à l'époque actionnaire à 33%, a toujours nié toute responsabilité. Et ben, l'État, c'est-à-dire l'ensemble des contribuables, ont payé la dépollution. Donc voilà, quelque part, malheureusement, hein, la situation qu'ont dû connaître les habitants. Quoi. La loi du pollueur-payeur n'a jamais été appliquée.
Donc, malgré la lutte acharnée, elle n'a pas porté ses fruits.
Non. Hein, cette lutte, si vous voulez, qu'on a pu avoir, nous, après la lutte des élus locaux, ça n'a pas porté ses fruits, dans la mesure où, manifestement, ils n'ont pas eu gain de cause au niveau du tribunal. Hein, cette action a été justement annulée en faveur de l'usine, ne pouvant pas sa responsabilité. Donc il a fallu, si vous voulez, mettre la main à porte-monnaie pour dépolluer ce site, quoi.
Et alors, justement, au niveau santé, Bruno, y a-t-il eu des avancées? Car obtenir des subventions, c'est bien, mais on dit toujours que la santé est la plus grande des fortunes. Et dans le cas de Metal Europe, l'impact sur la santé est tout à fait dramatique.
Ben oui, il y a eu malheureusement, hein, des cas dramatiques de saturnisme. Hein. Il faut savoir que les normes, hein, au niveau de microgrammes, hein, par litre de sang, au niveau de plomb, c'est 30 microgrammes, quoi. Et c'est même une directive européenne qui a fixé cette limite à 20 microgrammes par litre de sang. Donc, faut savoir que le taux moyen des habitants des grandes villes, hein, là où il y a les gaz d'échappement des véhicules, dépasse rarement les 10 microgrammes par litre de sang. Et il faut savoir que les organisations sanitaires au niveau de Metal Europe, on avait des normes qui dépassaient les 100 à 150 microgrammes par litre. Donc imaginez-vous un peu la situation de ces enfants qui malheureusement avaient des troubles, hein, qui touchent le système nerveux et qui ralentissent, hein, l'évolution de leur faculté intellectuelle, hein, voire une débilité au pire, hein, donc associée aux autres troubles, ça peut éventuellement amener des conséquences très dramatiques, quoi. Donc voilà un petit peu au niveau santé. Donc nous, on s'est battu pour obtenir, suite à la découverte de cadmium dans les légumes des potagers des jardiniers, un dépistage, tout au moins du cadmium, quoi. Hein, on aurait pu penser que les autorités auraient décidé de mettre ce dépistage en place. Il n'a rien été, il a fallu qu'on se batte également pour obtenir ce dépistage au niveau de l'ARS. Donc ce dépistage a été normalement réalisé. On attend, hein, de faire les résultats de façon à pouvoir analyser un peu et protéger les gens qui auraient des doses également trop importantes. Donc voilà un peu, brosser rapidement le problème au niveau santé. Et on suit ça en fonction des résultats qu'on obtiendra, j'espère, le plus vite possible, quoi.
Mais justement, alors Bruno, si ce dépistage montre que et prouve que, etc., etc., 3 points de suspension, est-ce que vous pensez qu'il y aura un dédommagement?
Alors ce dossier sanitaire, hein, donc on va mener une action auprès de notre cabinet d'avocats, Bah oui, servira effectivement à alerter les pouvoirs publics de la situation de certaines personnes. J'espère, encore une fois, si on demandait un dépistage, c'est pour être rassuré sur l'état de santé d'une plus grande majorité de personnes. Si malheureusement, il y a des gens qui avaient des normes trop importantes, bah bien entendu qu'il faudra aller au tribunal de façon à pouvoir demander une indemnité concernant ces problèmes. Mais vous savez, la difficulté aujourd'hui au niveau de problèmes de pollution, c'est que personne n'est égaux devant le fait d'avoir des doses plus importantes d'une personne à une autre. Vous pouvez avoir des différences importantes. Et là, c'est difficile en matière de santé de pouvoir effectivement arriver à prouver que c'est à cause de l'usine que ces gens sont dans cet état, quoi. Mais on ne désespère pas d'avoir gain de cause.
Et puis Bruno Adolfi, nouveau cheval de bataille, obtenir une ristourne fiscale sur la valeur des terrains dépréciés par les effets de la pollution de l'usine noyelloise.
Oui, alors bien entendu, lorsqu'on a créé cette association, on a mis en premier lieu la santé qui est primordiale, quoi. Et ensuite, je me suis aperçu que y avait des cas de jurisprudence au niveau des taxes d'habitation et des taxes d'impôts fonciers qui pouvaient être révisées pour cause de pollution, D'un côté, si c'était une antenne relais de télévision, des éoliennes, un circuit automobile, donc tous ces gens avaient des dédommagements avec leur impôt foncier et taxe d'habitation compte tenu d'une privation de leur espace de liberté, voire une aggravation au niveau d'une pollution. Donc manifestement, si les habitants de Noyelles, Courcelles et surtout de la maison ne pouvaient pas obtenir une baisse de leur impôt face à la pollution qu'ils subissaient depuis X temps, c'était quand même une situation dont on n'aurait jamais compris. Donc on a commencé cette action il y a plus de 2 ans, en demandant une baisse à la perception des limbements ou une révision, si vous voulez, du coefficient de situation générale des habitants concernés par la pollution au niveau de leur terrain. Bon, on a la direction générale des finances publiques qui nous a refusé cette baisse d'impôt, prétextant que depuis la fermeture de l'usine, la situation n'avait pas changé. Donc imaginez-vous l'aggravation des situations disons concentration de plomb prouvée par l'État et la direction des finances publiques qui nous dit que rien n'a changé. Donc c'était trop fort comme réponse de façon à ne pas aller au tribunal administratif. Nous sommes allés au tribunal administratif, le dossier est toujours en cours et entre-temps, M. Kemel, le député local, avait demandé justement un abattement au niveau de l'Assemblée nationale qui a été voté et adopté de façon à pouvoir diminuer de 50% l'impôt foncier des gens qui habitaient justement dans les zones polluées. Et cet amendement a été accepté récemment, donc on peut dire qu'on a franchi une marche qui n'est pas encore la plus haute, mais on a avancé dans ce dossier dans la mesure où tous les gens qui habitent dans des zones polluées verront leur impôt foncier de la part communale et de la part intercommunale diminuer de 50% pour l'année prochaine. Reste la part du département pour laquelle j'ai écrit M. Dagbert, le président du département, de façon à ce qu'il fasse la même chose. Donc, vous voyez, notre action n'a pas été neutre, bien au contraire. Il est tout à fait logique d'obtenir, si vous voulez, une baisse de ces impôts dans la mesure où, encore une fois, on ne profite pas intégralement d'un cadre de vie normal. Voilà, moi j'aurais été aussi long sur ce dossier, mais c'est assez spécifique.
Mais justement, alors, Bruno Adolfi, vous parlez de pollution, de pollution environnementale, de pollution des terrains. Mais alors, est-il encore possible de construire ou d'acheter des terrains ou logements dans ce périmètre autour de Métal Europe désaffecté?
Alors, il y a des zones où il est interdit de construire. Enfin, les directives des préfets successifs ont interdit certaines zones de construction, là où la pollution est la plus importante. Par contre, il y a des zones où on peut toujours construire. Mais il faut, à ce moment-là, décaper le terrain. Une analyse de sol doit être effectuée et un décapage doit être effectué également en fonction du résultat d'analyse de sol. Alors imaginez-vous, en 2014, lorsqu'on nous découvrions ces servitudes imposées aux gens, ces charges-là d'analyse de sol et de décapage étaient à la charge du particulier. C'est-à-dire que non seulement on lui dit « votre terrain est pollué », si la personne devait le vendre ou faire des travaux, il fallait en plus qu'elle paye, si vous voulez, ses frais de décapage. Donc, c'en était trop également, et l'association a obtenu la prise en charge totale de ces décapages et de l'analyse de sol. Donc aujourd'hui, oui, il est encore possible de construire sur les 20 mètres de maison dans certaines zones où il faut impérativement décaper les terrains. Hein. Voilà, et ces décapages seront pris en charge maintenant à 100% dans la mesure où on a obtenu cet avantage.
Mais alors, est-ce que cette situation, c'est une aubaine pour les promoteurs, ou alors au contraire, il est difficile de trouver des acquéreurs qui, bon, mis au courant de la pollution des terrains, renoncent à leur projet ?
Alors, les lotisseurs, aujourd'hui, à partir du moment où ils doivent acheter des terrains et pour lesquels ils doivent décaper le terrain, ça ne les intéresse pas du tout, compte tenu du coût du décapage, qui pour eux n'est pas pris en charge. Donc, il nous reste sur Eva Malmaison quelques lotissements qui sont en train, sont déjà quasiment vendus et les maisons commencent à sortir de terre. Ou, aussi bizarre que ça puisse paraître, il n'y a plus de pollution. La pollution s'est arrêtée à un endroit. Hein, et au-dessus on va dire 100 mètres plus loin, il n'y a plus de pollution du tout, de façon à ce que les gens puissent construire. Donc là, c'est dramatique, hein, mais c'est comme ça. Hein, y a les délimitations faites par les pouvoirs publics stipulaient que, manifestement, il y avait une pollution qui s'est arrêtée là où le bon vouloir le décidait de bien vouloir s'arrêter.
Oui. Donc, oui. Hein. Un petit peu comme Tchernobyl qui s'est arrêté aux frontières françaises. Oui.
Exactement. Hein. Donc nous, on a mis au courant ces personnes pour bien leur expliquer qu'effectivement on était dans une zone où il y avait des pollutions, mais aujourd'hui, malheureusement, je ne peux pas les interdire, si vous voulez, d'acheter ces terrains.
Et alors, sur le plan agricole, Bruno, les terres peuvent-elles encore être cultivées et produire ?
Alors, les terres, aujourd'hui, elles peuvent être encore cultivées et produire, oui, mais pas n'importe quoi. Donc, vous ne trouverez plus un champ de pommes de terre sur Eva Malmaison, à juste titre, dans la mesure où ces récoltes de pommes de terre ne peuvent pas être vendues pour la consommation humaine, voire même pour la production animale. Donc, on a demandé aujourd'hui, jusqu'à ce jour, à les agriculteurs qui plantaient des betteraves, du blé, des céréales, du maïs ou autre, ces récoltes étaient analysées, et si malheureusement elles étaient impropres à la consommation, elles étaient indemnisées au niveau de la récolte par les services de l'État. Aujourd'hui, les services de l'État, faute de budget nécessaire, et c'est dans beaucoup malheureusement de domaines, incitent les agriculteurs à prendre, à réfléchir à d'autres sources de produits, et on est en train, plus ou moins, de parler de méthanisation, c'est-à-dire créer un centre de gestion des déchets organiques, de façon à valoriser ces déchets et en produire de l'énergie. Donc on leur demande aujourd'hui de réfléchir à planter une herbe qui s'appelle le miscanthus, ou l'herbe à éléphant, ou autre produit qui, produira de l'énergie, du l'éthanol ou du biocarburant, serait quelque chose de plus propre que de produire des produits aujourd'hui qui sont inconsommables au niveau de la pollution des terres. Donc voilà un peu la situation aujourd'hui au niveau des agriculteurs. Et j'ai appris récemment qu'un centre de méthanisation avait été choisi, mais sur Saint-Laurent-Blangy, sur la métropole d'Arras. Donc je pense que ces centres-là vont petit à petit se créer dans beaucoup d'endroits. Donc restera à surveiller effectivement la pollution olfactive, si je puis dire, dans la mesure où ça pourra traiter également les lisiers et autres, les déchets organiques des agriculteurs. Donc attention et vigilance aussi.
Voilà. Eh bien, on l'a compris, Bruno Adolfi. Bon, il y a encore beaucoup de pain sur la planche pour votre association. Et surtout, surtout, Bruno, vous ne manquerez pas d'utiliser le média que représente Radio Plus pour tenir informées les personnes concernées et puis les autres aussi. Et bien sûr quant à l'avancée de ce dossier.
Bien sûr, mais je vous remercie sincèrement d'avoir pu pouvoir m'exprimer au niveau du sujet, au niveau de notre association. Bien entendu, je reste à votre disposition, je ne manquerai pas de vous tenir au courant des évolutions et des avancées qui sont importantes pour nous au niveau des habitants.
Tout à fait.
Voilà, et je peux lancer un message à Monsieur le Président du département, Monsieur Dagbert, c'est de lui dire, n'oubliez pas de délibérer également de façon à nous octroyer, comme la commune et l'intercommunalité, cet abattement de 50% sur l'impôt foncier qu'on mérite tout à fait compte tenu de cette pollution qu'on subit depuis trop trop longtemps. Voilà.
Merci Bruno, je vous dis donc à plus tard sur nos ondes. Merci.
Merci beaucoup, bonne journée à vous, au revoir.
Au revoir.
clore si mon projet sous des principes humanitaires. Faites-nous confiance, tout le monde pourra manger.
Mais point ne précise.
Du moins ceux d'entre vous qui n'auront pas peur de muter.
Comment ça muter?
Je suis l'humanoïde du troisième millénaire. Aimé à la dioxine et aux radiations nucléaires.
Billy's Kick est leur céréale pollueur. Et oui, quant à nous, arrêtons de polluer nos jardins. Il y a assez de pollution comme cela autour de nous. Alors arrêtons de polluer nos jardins avec tous ces produits phytosanitaires. Et Bertrand Trinel de l'Association des paysages, des jardins et des hommes va nous dire comment.
Il y avait un jardin qu'on appelait la terre.
Si tu veux être heureux toute la vie, dit le proverbe, fais-toi jardinier. Chaque semaine, Bertrand Trinel, président de l'Association des paysages, des jardins et des hommes, vous aide à cultiver le vôtre 100% nature. Freud affirmait que la seule chose importante dans la vie, c'est le jardinage. Mais la seule chose importante dans la vie, n'est-ce pas notre santé, c'est-à-dire notre environnement ? Bertrand nous explique comment pratiquer l'un en préservant l'autre.
Automne en fleurs, hiver plein de rigueur, dit un dicton. Bonjour Bertrand.
Et bonjour à tous les auditeurs.
Alors il est vrai que nous avons rarement autant de fleurs encore dans le jardin ou de petits arbustes qui refleurissent à cette époque de l'année, ce qui promet donc un hiver assez froid, je suppose.
Alors cette année c'est un peu spécial quand même. On a eu un printemps, dès le printemps, plusieurs mois de sans pluie avec des températures élevées. Et bien sûr, toutes les plantes ont végété, hein, même parfois des plantes ont risqué la mort. Et puis tout a redémarré avec les pluies d'été. Donc difficile à dire si quel hiver on aura, si ça sera un hiver froid, un hiver très froid, on ne sait pas. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est en pleine période de réchauffement climatique, ça c'est certain. Et ce serait bien quand même qu'on ait un hiver assez froid, qu'il y ait une période de gel en cours d'hiver, car beaucoup de plantes ont besoin de cette période de froid pour pouvoir fleurir au printemps, pour pouvoir bien fleurir et fructifier.
Alors justement sur le calendrier, Bertrand, c'est aujourd'hui la Saint-Jean de Capistran. Pas de dicton particulier pour cette date du 23 octobre, mais il y en a quand même un qui dit « Octobre, le vaillant surmène le paysan ». Cela veut dire, Bertrand, que c'est aussi un mois de gros travaux dans le jardin avec beaucoup de choses à y faire.
Alors oui, effectivement, mais les dictons ce sont des bons points de repère pour le jardinier, hein. Ils sont souvent adaptés à une région précise. Et puis, il peut y avoir des décalages selon qu'on se trouve en dessous de cette région, hein, plus au sud ou plus au nord. Et les anciens observaient la nature et les dictons, ça leur permettait de transmettre aussi un savoir empirique à leurs descendants. Donc effectivement, octobre, c'est un gros mois pour le jardinier. C'est le moment de récolter la plupart des légumes racines, hein, qui sont encore au jardin, les carottes, les betteraves rouges, les céleris, les panais, ainsi que toutes les cucurbitacées. On peut également récolter les choux. Alors là, un petit conseil, si vous récoltez les choux, récoltez-les avec les racines pour les entreposer dans un endroit frais. Vous pourrez les garder quelques semaines comme ça sans aucun problème. Bon, en sachant quand même que les choux résistent bien au froid, donc ils peuvent rester dans le jardin et vous pouvez les cueillir au fur et à mesure de vos besoins. Bon, ensuite, dans le jardin d'agrément, il y a également beaucoup à faire, un nettoyage des parterres, retracer les bordures, couper les vivaces fanées, enlever les annuelles qui sont mortes. Hein, c'est aussi le moment de préparer de nouveaux parterres, penser aux plantations. Donc oui, octobre, c'est un gros mois de travail en attendant le repos hivernal.
En tout cas, c'est vrai que l'automne est bien là et la nature revêt avec toute une palette de couleurs et nous sommes en admiration devant tant de beauté. Mais alors Bertrand, justement, c'est le bon moment aussi pour les plantations arbres et arbustes.
Oui, alors tout à fait, hein, c'est le bon moment. Disons que on est au début du bon moment, quoi. C'est les plantes de plantation vont pouvoir s'échelonner jusqu'en mars. Tous les arbustes à racines nues, on peut les planter sans problème jusqu'en mars, à condition qu'ils ne gèlent pas. Hein. C'est bien de les planter en octobre, donc avant l'hiver. Hein, le sol est encore chaud. On peut les arroser, il n'y a pas de problème, pas de crainte de gel en ce moment. Hein. Et du coup, leur système racinaire va s'étoffer au cours d'hiver. La reprise en sera meilleure. Alors, surtout, il ne faut pas non plus oublier de les arroser en cours d'année. L'année prochaine, la première année, il faut bien arroser les arbustes qu'on a plantés avant l'hiver. C'est pas parce qu'on les a plantés l'hiver qu'il ne faut pas les arroser.
Tout à fait. Alors, bah oui, nous aussi, on boit l'hiver. Alors, bon, cependant, justement, avant de planter, Bertrand, il faut quand même essayer de bien connaître les besoins des végétaux et les choisir en fonction de son jardin. Il ne faut pas planter n'importe quoi, n'importe où.
Oui, tout à fait. Donc, on ne peut pas planter n'importe quel arbre ou n'importe quel abus dans n'importe quel terrain. Donc, en premier lieu, c'est bien de connaître le pH de son sol. Donc, un pH neutre, ça a pour valeur le chiffre 7. Au-delà de ce chiffre, le sol est alcalin, donc calcaire. En deçà, il est plutôt acide. Par exemple, si on prend un sol à pH 6, il est 10 fois plus acide qu'un sol à pH 7. Donc, un sol neutre, pH 7, ça convient à la majorité des plantes. Toutefois, certains arbres, forcément, ont besoin d'une terre un peu plus acide pour s'épanouir. C'est le cas des rhododendrons, des azalées, des pyrrhises, des myrtilliers, etc. Ou alors, ils ont besoin d'une terre un peu plus calcaire. C'est pour la vigne, les pruniers, le tilleul, le buldéo. Bon, voilà. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il faut connaître les besoins d'ensoleillement. Certains végétaux ont besoin d'ombre ou de mi-ombre, alors que d'autres vont demander le plein soleil. Donc ça, il faut bien connaître le besoin des plantes. Et puis, il ne faut pas oublier qu'une plante ou un arbre, c'est un être vivant. Et si on ne le place pas à la bonne place, bah, il va être en état de stress. Il peut même dépérir. Il faut également prendre garde à la taille adulte. Alors sur les étiquettes, c'est indiqué l'âge adulte, c'est l'âge à 10 ans. Donc, quand on met un arbre, parce que moi j'ai vu des petits arbres qui sont tout mignons, on les plante juste devant la porte d'entrée, et puis quelques temps plus tard, enfin quelques dizaines d'années plus tard, c'est un géant, et on le coupe. Alors il y a plein de beaux arbres comme ça qui sont abattus uniquement à cause d'erreurs d'emplacement. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Et enfin, je dirais qu'avant de planter, eh bien, allez visiter des jardins, voir comment les plantes se comportent dans d'autres jardins. Il y a des tas de jardins à visiter, et puis ensuite vous faites votre choix. Voilà.
Et puis Bertrand, quelques petites choses à faire en octobre au jardin potager, vous l'avez dit, ramasser les choux, etc. Mais justement, au niveau plantation, est-ce qu'on peut planter dans le jardin potager à l'heure actuelle?
Oui, on peut encore planter des choux, on peut encore faire des choses, mais on peut surtout, c'est ce qui est très bien, c'est semer un engrais vert du type moutarde, de la veste et tout ça, parce que l'engrais vert, c'est une couverture du sol, ça empêche l'érosion du sol. Et ça amène, donc quand ça fait 30 cm de haut, on coupe et ça empêche, ça amène un engrais dans le sol.
Alors, jardiner autrement, c'est-à-dire jardiner au naturel, Bertrand, donnez-nous la petite astuce à faire en cette saison pour éviter justement les produits phytosanitaires. Alors par exemple, bon, je parle pour moi qui jardine de temps en temps, comment enlever actuellement toutes les mauvaises herbes qui ont poussé là où on ne les attendait pas? Alors vous allez me dire à la main, mais comment faire par exemple pour qu'elles ne repoussent pas? Vous savez, entre les petits pavés, entre...
Oui, alors effectivement, le meilleur de nos outils se trouve à l'extrémité de nos bras, hein, c'est la main. Donc on peut effectivement désherber la main, et franchement, en ce moment, avec le beau temps qu'on avait eu là il y a quelques temps, et ça va revenir, c'est un véritable plaisir hein, de désherber la main. Par contre, pour contenir la repousse, il y a plusieurs choses. On peut biner soit régulièrement, hein, lorsque c'est-à-dire que ce qu'on nomme les mauvaises herbes sont encore petites, c'est la bonne pratique qui va très vite à faire. Si on le fait régulièrement, ça va très vite à faire et le jardin reste toujours propre. Au potager, dès qu'une parcelle se libère, ce que j'avais dit juste avant, on peut se mettre un engrais vert. On le coupe, on le laisse sur place, ça empêche la mauvaise herbe de pousser. Au printemps, on l'incorpore au sol et c'est bon. Dans les parterres de vivaces et tout ça, si les vivaces sont très espacées, on peut découper des petits morceaux de carton d'emballage où il n'y a pas de d'écriture dessus. On les découpe autour, on les pose autour des vivaces. Et au-dessus de ça, on met un mulch, soit des copeaux, de la paillette de lin, de chanvre ou autre. Et ça va se décomposer tout doucement avec le temps et nourrir le sol, mais ça empêche surtout les plantes de pousser. Et lorsque vous voulez mettre en place, par exemple, telle ou telle sorte de vivace dans votre jardin, ou des rosiers, au lieu de les piquer un seul pied, mettez-en toujours plusieurs, au moins trois. L'effet de masse sera beaucoup plus joli. Si vous me plantez trois rosiers, ça fera une floraison vraiment très spectaculaire. Voilà. Et après, il y a aussi des personnes qui aiment planter les vivaces et les plantes très serrées. Ben, en plantant très serré, ça empêche aux autres plantes de pousser également. Voilà, c'est le petit conseil de...
Oui, parce qu'on sait que la nature a horreur du vide. Alors Bertrand Trinel, on revient à votre association des paysages, des jardins et des hommes. Le salon des jardiniers hier à Berlin était convivial comme vous le souhaitiez, avec de nombreux échanges, puisque vous y étiez dans le souci bien sûr de montrer que chacun peut jardiner autrement. Alors d'après vous, Bertrand Trinel, est-ce qu'il y a une prise de conscience qui se fait qui est de plus en plus effective?
Alors oui, nous, On a passé une superbe journée hier à la fête des jardiniers de Berlin. Hein. Nous avons vu beaucoup d'échanges avec les visiteurs. On a pu donner pas mal de nombreux, même de nombreux conseils de jardinage. Et c'est vrai qu'on ressent fortement, chez la majorité des personnes qui sont venues, une volonté de jardiner autrement, de jardiner de façon plus naturelle. Et ça, ça se ressent. C'est vrai que la prise de conscience se fait peu à peu. Et c'est bien. C'est très bien comme ça. D'autant plus que pour la santé, il faut vraiment qu'on mange des choses naturelles quand même, de plus en plus.
Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et on rappelle, Bertrand, très très vite les coordonnées de votre association.
Alors l'association, c'est Des Paysages, Des Jardins et Des Hommes. Donc si vous allez dans Google, vous tapez Des Paysages, Jardins et Des Hommes, vous aurez déjà tout ce qu'on fait dans l'association, sauf les parutions qu'on réserve à nos adhérents. Mais vous aurez déjà une idée de ce qu'on fait. Voilà.
Merci Bertrand, je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Merci Bertrand.
Au revoir Martin.
Combien de temps nous faut-il encore pour qu'enfin l'on comprenne qu'on est tous tombés du même arbre et qu'on finira tous pareil? Combien de jours, combien de nuits, combien de fureurs, combien de bruit? Combien de femmes, combien d'hommes, hiver, printemps, été, automne, vont mordre encore la poussière, jeter des bouteilles à la mer? Combien encore d'années-lumière s'écrit dans le désert?
Eh bien, justement, la lumière, parlons-en. Pierre Rose, bonjour.
Bonjour Martine.
Alors la semaine, là, il y a de cela 15 jours, vous nous avez présenté le compteur Linky déployé par Enedis suite à une décision gouvernementale. Ce compteur pensé par et pour le gestionnaire de réseau et pas du tout dans l'intérêt des consommateurs, comme le qualifie UFC Que Choisir. Alors vous êtes militant au sein du collectif Linky 62 qui s'oppose à la généralisation de ce compteur qui a déjà du reste fait beaucoup parler de lui, puisque ceux qui en sont déjà équipés ne cessent d'en dénoncer les dysfonctionnements. Alors vous pouvez d'ailleurs nous en citer quelques-uns, Pierre.
Oui, quelques-uns. Parmi d'autres, les lampes et téléviseurs qui s'allument tout seuls, la surfacturation, par exemple à Carouble dans le Nord, le chauffe-eau qui fonctionne en heure pleine, la box qui connaît des bugs, les personnes atteintes de la maladie électro-hypersensible obligées de quitter leur maison pour dormir, c'est pas seulement à cause du Linky. Hein. Un exemple dans la voie du Nord de Boulogne a été donné. Des problèmes avec des personnes ayant un pacemaker. Bon, après d'autres exemples qu'on pourrait donner, citer sur, en Auvergne, en Lorient, à Lorient, pardon, Aix-en-Provence, etc.
Alors, Enedis impose ce compteur, mais beaucoup d'associations et de collectifs se créent pour le refuser collectivement et individuellement. Ainsi, avec collectif Linky 62, votre association, c'est la procédure que vous voulez engager. Et vous nous avez dit lors de l'émission précédente que c'est tout à fait possible, contrairement à ce qu'affirme UFC Que Choisir, nous pouvons refuser la pose des compteurs en utilisant des règles précises.
Oui. Alors, je rappelle que, contrairement à ce que pensent certains, il n'y a pas obligation à imposer de nouveaux compteurs. La réponse du ministère concerné est très claire. L'obligation vaut pour l'opérateur et non pour l'usager. Donc ça, c'est un premier point. Alors, le propriétaire ou le locataire a le droit de s'opposer à la pose du compteur. Alors, deux cas de figure. Si le compteur est à l'intérieur de l'appartement, il faut surtout pas ouvrir la porte aux poseurs qui sont capables d'utiliser des méthodes musclées. Hein. Si vous êtes harcelé par téléphone, tenez bon. Répondez que vous êtes en contact avec le collectif n'importe lequel Stop Linky de la région et envoyez une lettre recommandée à Enedis et au maire. Deuxième cas de figure, si votre compteur est accessible par tout le monde, c'est-à-dire à l'extérieur. Alors, les lettres recommandées peuvent ne pas suffire, mais il faut les faire. Enedis est déjà passé outre à installer quand même le Linky. Un exemple a été donné il y a peu sur une radio locale à Vimy. Donc posez un cadenas sur la porte du coffret. Affichez sur la porte « Touche pas à mon compteur » par exemple. faites une photo avec la date dessus, et tout ceci permettra, en cas de, d'infraction de la part d'Enedis, d'attaquer en justice si c'est nécessaire.
Alors, si vous le voulez bien, on revient sur chacun des points qui font émerger des problèmes récurrents et qui vous font dire non à la pose de ce nouveau compteur Linky que vous qualifiez, je le répète, d'aberration économique et écologique. Et on verra pourquoi. Mais alors d'abord les risques. Pierre-Rose, vous parlez de risque d'incendie. Risque avéré, vraiment ?
Alors, il y a beaucoup d'exemples. Entre autres, à une certaine époque, en 2010, il y a eu pas mal d'exemples. Alors, beaucoup de compteurs sont exposés à l'humidité et aux variations de température. Donc, les nouveaux compteurs dits intelligents ont une partie électronique et ces parties sont fatalement sensibles à ces phénomènes, ce qui explique les cas d'incendie que l'on a pu déceler. Alors, il y a un film de Brian Tiersen qui s'appelle « Les incendies de compteurs Linky » qui indique qu'il y a eu des problèmes aux États-Unis et au Canada sur cette question. Alors, les anciens compteurs, c'est-à-dire les compteurs actuels, électromécaniques ont démontré leur robustesse et leur fiabilité. Alors, il faut tout de même rappeler, enfin, signaler que EDF a publié en 2015 de nouvelles conditions générales de vente. Il est en train de faire le forcing en ce moment. Alors, il est dit qu'en cas d'incendie provoqué par le compteur Linky ou par les radiofréquences qu'il injectera, il appartiendra au client, c'est-à-dire à la victime, de prouver la responsabilité de RDF. Alors, c'est tout de même extraordinaire. Hein. Alors, pour rappel, de plus en plus d'assurances ne couvrent plus les risques liés aux champs électromagnétiques.
Alors justement, là j'en viens vous parler aussi de risques sanitaires. Je suppose que ce sont les ondes électromagnétiques qui suscitent votre inquiétude.
Oui, pas seulement nous, mais c'est également le Centre international de recherche sur le cancer qui a émis un avis classant les radiofréquences CPL du Linky potentiellement cancérigènes, catégorie 2B, et ceci en mai 2011. Alors, on ne peut que constater d'ailleurs les similitudes troublantes avec des dossiers dramatiques comme l'amiante, le nucléaire, le tabac, les pesticides, les perturbateurs endocriniens, les OGM, etc. Des études mettent en lumière les risques quand d'autres, souvent initiés ou financés par des industriels, prouvent le contraire. Ce n'est que des années, voire des décennies après, que la vérité ne peut plus ou ne pourra plus être niée. Alors, il existe un très fort doute sur la prétendue innocuité des ondes magnétiques. Avec les compteurs communicants, l'exposition sera peut-être faible, mais permanente. Nous ne voulons pas servir de cobaye pour voir si, plus tard, nous aurons effectivement des maladies gravissimes.
Bien sûr. Et puis aussi, ce qui vous préoccupe beaucoup, c'est que ce compteur communicant donne libre accès à des données strictement confidentielles. Et vous pensez que la vie privée s'en trouve bafouée?
Oui, on en a déjà un peu parlé la fois dernière. Donc, il y a 15 jours, Linky sert à compter, mais surtout à développer le big data, c'est-à-dire à capter d'innombrables informations sur nos vies. Le président d'Enedis se reconnaît d'ailleurs, il le dit. Il dit « Nous sommes désormais un opérateur de big data ». Il dit aussi « Nous sommes déjà capables de mettre à la disposition du client toutes les données de consommation et d'état du réseau ». C'est clair. Alors nous pensons qu'il est injustifiable que des sociétés connaissent nos consommations et l'utilisation quotidienne de nos objets. La mise en place des compteurs communicants donnera aussi aux autorités des outils de surveillance généralisés de la population pour restreindre les droits et libertés de certains, et ils ne vont pas se gêner. Si on laisse faire, l'humain va devoir tout subir. Et à terme, on veut que l'homme devienne un sous-robot.
Mais justement, Pierre, est-ce que vous pensez que les risques de piratage existent, comme vous l'aviez dit ?
Bah oui, il y a eu des exemples. Par exemple, la presse a relaté un énorme piratage des systèmes informatiques des grandes multinationales le 21 octobre 2016. Un autre exemple, un nouveau compteur électrique ERDF a été piraté par un groupe de hackers allemands en 2012. Et des hackers ont déjà expliqué comment ils avaient piraté ce compteur en réussissant sans peine à lui faire afficher une consommation négative. Donc à partir de ces constatations, oui, le piratage est possible par le cyberterrorisme qui pourrait plonger dans le noir tout un quartier pour opérer tranquillement.
Alors justement, d'autre part, Pierre-Rose, il y a de cela 15 jours, vous nous avez dit que les cambrioleurs pourraient voir leur activité rendue plus facile avec ce compteur.
Oui, alors je vais pas rentrer dans les détails, mais on peut savoir si le logement est vide ou s'il est occupé, combien de personnes sont présentes et à quelles activités elles se livrent. Alors, si le compteur est à l'intérieur, il faut passer par des hackers. Si le compteur est à l'extérieur, ces informations sont accessibles à toute personne accédant au compteur. Alors cela n'est pas possible avec les compteurs actuels. La différence est fondamentale et permet aux cambrioleurs de disposer d'une information pertinente dans les détails.
Alors je suppose qu'il y a beaucoup aussi, qu'il y a beaucoup d'autres points d'interrogation ou d'autres préoccupations. Alors vous dites donc aberration économique, vous nous expliquez ?
Alors l'aberration économique, eh bien l'aberration économique... installer des compteurs communicants revient d'abord à se débarrasser de 81 millions de compteurs ordinaires. 35 millions pour l'électricité, 35 pour l'eau et 11 pour le gaz. En parfait état de marche. Alors c'est d'autant plus grave que les compteurs actuels peuvent durer jusqu'à 60 ans ou plus. Alors qu'il faudrait remplacer les compteurs communicants officiellement dans 15 ou 20 ans, en réalité dans 5 à 7 ans. Ces installations et ces renouvellements successifs nécessiteront d'immenses quantités d'énergie, de matières premières et de milliards. 5 à 7 milliards sont prévus pour ce projet. Donc c'est là qu'il y a une aberration économique.
Et donc on devine l'impact environnemental de tout ça, bien sûr. Alors, votre collectif a organisé une réunion publique d'information. Des tendances ou des décisions ont-elles émané de cette réunion ?
Oui, alors cette réunion organisée à Quiry-la-Motte a permis de voir venir 90 personnes. Enfin, pour la petite histoire, 4,5 pour la police. Ça semble modeste, mais c'est déjà intéressant comme première approche. Différents points ont été abordés, les reproches à faire à ce compteur, les moyens de s'opposer à l'installation du compteur, comme on vient de le voir, la responsabilité de la commune propriétaire de ce compteur. Une pétition a été signée. Et il ne faut pas tarder à agir parce que Enedis anticipe son programme d'installation. Le secteur concerné par les personnes venues à la réunion est en première ligne. Les travaux peuvent débuter en ce moment et s'étaler jusqu'en février. Par ailleurs, il faut savoir ce qu'a dit l'animateur de la réunion. Les dernières tendances viennent conforter notre démarche et les décisions de justice commencent à tomber. Dans deux cas reconnus d'hypersensibilité, hyper-électrosensibilité, pardon, le compteur Linky a été démonté et remplacé par l'ancien compteur. Donc le combat peut être victorieux, surtout s'il est collectif. En France et aussi dans notre région, la résistance s'organise. Il ne faut donc pas hésiter à contacter des collectifs et agir ensemble. C'est ce que craint d'ailleurs Enedis. Et moi, pour terminer, je voudrais conseiller quelques sites intéressants, c'est-à-dire le collectif Linky, qui est un site, Refus Linky Gaspard, et bien sûr Robin des Toits, CRIREM, Free Artem, et Que Choisir, qui évolue pas mal en ce moment. Il y a beaucoup, beaucoup de sujets, et beaucoup de types, pardon, de sites sur le sujet.
Eh bien, Pierre-Rose, merci pour cette lumière que vous avez faite sur ces compteurs, et je dis cela sans jeu de mots. Alors, bien évidemment, vous nous tenez au courant de la suite, hein, surtout.
Oui, merci pour les questions pertinentes. Merci d'avoir eu la patience de m'écouter sur un sujet tellement grave qu'il est difficile de l'aborder avec le sourire ou le rire. En tout cas, je ne sais pas le faire à cette façon.
Mais de toute façon, Pierre-Rose, c'est nous qui vous remercions. Et puis, surtout, je vous dis, on se rappellera, bien sûr, et vous serez à nouveau pour d'autres interviews sur cette antenne parce que c'est quelque chose qui concerne absolument tout le monde.
Merci pour tout.
Merci, Pierre.
Au revoir.
Au revoir. Voilà, et bien en tout cas, on attend que ça bouge et on aura du nouveau avec Pierre-Rose prochainement. Tout de suite, après la petite page de publicité,